Vous écoutez
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là, j'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, c'est jusqu'à minuit l'émission où on vous a parlé de foot pendant tout le confinement, qui vous a accompagné alors même qu'il n'y avait pas de foot, mais cette période est révolue mesdames et messieurs, par ailleurs à vos applications, téléspectateurs, à vos écrans, passionnés, à vos radios, dans une semaine le football reprend et comme des junkies en manque de fixe, nous allons attendre et savourer cette semaine avant que la Bundesliga ne reprenne comme si c'était la dernière semaine avant Noël. Du football frais revient mesdames et messieurs, ça commencera donc à partir de samedi prochain. On va parler largement dans cette émission ainsi que les reprises des différents championnats. Dans la première heure, on parlera également des 5 changements autorisés par le board de la FIFA. Les clubs et les entraîneurs vont pouvoir faire plus de changements pendant les matchs. Et puis on vous a demandé sur Twitter et on continue à vous le demander, vous nous rejoignez au 32-16 pour en parler, qui a la plus grosse frappe de mule dont vous vous souvenez. On sort des Roberto Carlos, des Adriano et on cherche les joueurs avec les frappes les plus lourdes dont vous vous souvenez. Les grosses frappes de mule, ce sera donc dans la deuxième partie de cette heure. Et pour m'accompagner ce soir, un homme qui pouvait faire sa tête de mule mais qui avait un grand cœur, Willy Sagnol, bonsoir.
Salut Timothée.
Un homme qui aime bien charger la mule quand il s'agit des décisions prises par la Ligue d'arrêter la Ligue 1, Roland Courbis, bonsoir coach.
Salut les amis, salut à tous.
Et un homme qui a porté le mulet, mais avec élégance, Lionel Charbonnier, bonsoir.
Salut à tous, salut Tim.
Et vous l'aurez compris, on regrette que Fred Piquion ne soit pas avec nous ce soir. On va donc se lancer immédiatement dans le premier sujet de cette heure d'After. Alors évidemment, vous comptez pas énormément sur Lionel Charbonnier sur les premières minutes de l'émission, il y a Koh-Lanta, donc forcément on va un peu le perdre au début, mais il sera bien avec nous tout au long de cette émission, mon Lio, évidemment. Tu interviens quand tu veux. Alors, vous le savez, avec ces mesures de reprise qui sont en train de s'amorcer dans certains championnats, on parlera dans la deuxième heure de la Bundesliga qui va reprendre dès samedi prochain avec un énorme derby. Dortmund face à Schalke et ce devant 300 personnes. 322 personnes précisément seront autorisées dans les stades de Bundesliga. Et il va y avoir du changement. Et je voulais ton avis là-dessus, coach. La FIFA, le board de la FIFA a décidé, pour éviter les accumulations de blessures, de permettre 5 changements. En clair, la FIFA prend en compte le fait que les joueurs se seront arrêtés pendant une longue période, qu'ils auront peut-être des phases de reprise écourtées, potentiellement des vacances écourtées pour ceux qui reprendront le championnat 2019-2020 et qui enchaîneront avec le 2020-2021. Et pour éviter les blessures, l'idée est donc de proposer 5 changements aux joueurs. Coach,
Pour diminuer.
Pour diminuer effectivement les blessures. Alors que le football évolue dans une situation aussi particulière, c'est logique. On avait déjà vu la possibilité de faire un changement supplémentaire pendant des prolongations, un quatrième changement. Est-ce que ça ne dénature pas le jeu? Est-ce que le football, c'est pas aussi une notion d'endurance?
Non, moi je pense pas. Je pense que dans tous les cas, on est dans une situation compliquée, dans une situation exceptionnelle. Donc à partir du moment où on est dans une situation exceptionnelle, on est obligé de prendre des décisions inhabituelles. Mais par contre, se pencher aujourd'hui sur le fait qu'il y a de plus en plus de blessés, je pense que bien avant le virus, on en a suffisamment parlé dans tous nos débats, que ce soit pas seulement dans le football, dans le sport en général, mais ce qu'on regarde en premier, c'est le sport le plus important, à savoir le football, le rugby aussi. Je vois de plus en plus de blessures, et que l'on puisse se pencher sur cette inquiétude de blessures en rajoutant, allez, deux possibilités de changement. Oui, on peut déjà aussi penser que, comme tu l'as dit, il y avait un souci, on en avait droit à un quatrième changement pendant les prolongations. Je pense aussi que dans les 3 changements habituels, le gardien de but, pour moi, aurait dû toujours être à part. Mais c'est une bonne idée qui peut-être restera, ça on aura l'occasion de le voir, puisque c'est parti là pour le moment jusqu'à fin décembre. Après, ouais. on verra si on garde cette habitude ou pas.
Absolument, et cela concernera les matchs de Ligue des Champions, d'Europa League donc, et les matchs de sélection qui pourraient se jouer jusqu'à fin 2020.
Donc, 5 changements, d'accord. Et est-ce qu'ils ont changé aussi l'idée que celui qui a été changé peut à nouveau rentrer sur le terrain ou ça bouge pas?
Ah, tu veux dire la possibilité de sortir un joueur et de le faire re-rentrer un petit peu plus tard, comme ça se fait au rugby, oui, par exemple?
Puisque le souci, c'est de faciliter le boulot des coachs pour pouvoir gérer l'effectif et pour pouvoir faire en sorte que à certains postes et certains joueurs puissent se partager le boulot pour justement ne pas tirer sur l'organisme qui est quand même un organisme un petit peu perturbé, et pas seulement sur le plan athlétique et physique, sur le plan psychologique aussi. Quand t'as l'inquiétude du virus, t'as quand même un souci de plus, c'est pas seulement ton adversaire habituel, il y a aussi le virus comme adversaire.
Alors, avant de donner la parole à Lionel et à Willy, justement, je rebondis sur ce que tu dis, coach, sortir un joueur pour le faire re-rentrer un quart d'heure plus tard, une demi-heure plus tard, ça serait pas contre-productif? Il n'y a pas un risque musculaire, il n'y a pas un risque de...
Ben non, à partir du moment où il y a un règlement, il faut s'adapter. Quand, par exemple, tu es un joueur qui est sorti par ton entraîneur, tu n'es pas obligé non plus de boire 2 litres d'eau, et tu peux continuer un petit peu à t'assouplir et tout, sachant que dans un quart d'heure, ben peut-être tu peux rentrer. Ça dépend de l'évolution du score, ça dépend de la situation, ça dépend s'il n'y a pas un copain mais qui commence à faiblir un peu. Donc c'est une question que je te posais. Mais déjà, le fait de rajouter...
En tout cas, ça n'a pas été envisagé par le board, hein. Ça n'a pas été annoncé par le board donc, de la FIFA. Pour le moment, on en reste 5 changements.
Déjà, c'est déjà pas mal.
Willy Sagnol, 5 changements, mesure efficace, mesure placebo pour toi?
Non, je trouve que c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure parce que, voilà, on connaît quand même la difficulté que vont avoir les clubs à reprendre après cette longue coupure. Je trouve que c'est bien. J'irai même plus loin, je trouve qu'il faut garder ça pour le futur, parce qu'on se rend compte que il y a de plus en plus de matchs, les intensités de matchs surtout augmentent très régulièrement et même de manière un petit peu exponentielle ces dernières années. Donc je dirais que de garder ces 5 changements, c'est une très bonne chose. Après, je pense que là, dans la situation actuelle, comme les joueurs vont avoir été absents depuis longtemps, il faut pas mettre d'autres barrières plutôt que ces 5 changements. Par contre, à partir du moment où les équipes auront repris leur rythme de compétition, donc à partir peut-être de septembre, octobre ou quelque chose comme ça, si on garde les 5 changements, peut-être prévoir les 5 changements sous forme de vagues. Parce que s'il y a 5 changements par équipe, ça fait 10 changements.
Oui, 10 changements, faire 2 changements ça à la fois couper. Minimum, voilà, le chronomètre en permanence.
Voilà, ça va couper beaucoup. Donc peut-être réfléchir après un système de vagues pour pas trop couper le rythme. Mais ça, une fois que la compétition vraiment aura repris et que les organismes de nouveau seront à 100%.
Mais il me semble que c'est le cas, Willy, ces 5 changements, mais en 3 phases.
Je sais pas, j'ai lu
dernièrement là il y a 2 minutes là, j'ai lu un peu ça.
C'est une bonne chose, peut-être que ils auraient peut-être pu s'en empêcher pour l'instant, mais l'idée est très bonne.
Willy, tout à l'heure le coach le disait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de blessures. Petite parenthèse dans le débat qu'on est en train d'avoir sur ces 5 changements. Comment tu l'expliques, le fait qu'il y ait plus de blessures? Vu de l'extérieur, je te pose la question, la question que se pose le grand public très clairement, c'est: est-ce que c'est parce que le football va plus vite ou est-ce que c'est parce que les joueurs s'écoutent plus?
S'il y en a un qui a la réponse, mais la vraie réponse, il peut m'appeler et me l'expliquer, je serais vraiment preneur. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Oui, les intensités de match augmentent. Donc forcément on tire plus sur les organismes, c'est une certitude. Mais à côté de ça, il y a eu des progrès énormes qui ont été faits en termes de préparation athlétique, en termes de réathlétisation pour les blessés, en termes de récupération pour les joueurs valides. Il y a même maintenant des joueurs qui ont carrément des staffs autour d'eux, c'est-à-dire ils ont des kinés, ils ont des préparateurs physiques à domicile en plus de ce que font le club. Et je pense qu'on a été dans une forme d'extrême à ce niveau-là. Je sais que c'est un problème pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs. C'est-à-dire que les joueurs ont également un préparateur physique à domicile, entre guillemets, un particulier. Ce qui fait que souvent, et c'est, enfin moi je l'ai vu, donc le préparateur physique en chef de l'équipe ne sait pas forcément ce que les joueurs ont fait quand ils sont chez eux.
Et vice versa.
Et ça, après c'est le joueur qui va l'expliquer à son prépa physique personnel, mais il va peut-être pas pouvoir lui décrire ou lui donner les intensités exactes. Aujourd'hui la grande mode c'est ce qu'on appelle de travailler sur, vous savez, sur les kilowatts, combien de watts l'entraînement il va te coûter, et c'est de travailler là-dessus. C'est quand même des choses très scientifiques, c'est pointu, il faut être fort pour calculer ça. Et je trouve que qu'on était vraiment dans une forme d'extrême. Les joueurs ont été dans une forme d'extrême et je trouve que c'est pas bon. Après, je pense que la raison principale pour moi, c'est augmentation du nombre de matchs pour les grands joueurs.
La fréquence.
Ouais. Voilà. Et parce que les joueurs, entre guillemets, les joueurs moyens, ils n'ont pas forcément d'équipe nationale, donc
oui, voilà, ils vont faire moins de matchs. Quelques matchs de
voilà,
coupe, ça
voilà,
va. Ça,
voilà. Ouais, 45 mais, matchs. Mais les grands joueurs qui jouent dans les grands clubs, entre leur coupe nationale, la Champions League, le championnat, l'équipe nationale, la Coupe du Monde des clubs, la coupe bidule que la FIFA veut faire en plus. Enfin,
ça peut monter à 63 matchs.
Ouais. Ouais, mais là, je trouve qu'on arrive dans une zone où c'est dangereux. Donc, je pense qu'il faut rétro-pédaler à ce niveau-là.
Lionel, la question que je posais sur le fait que les joueurs s'écoutent un peu plus, on sait que les joueurs gèrent des carrières, que quand ils ont un début de quelque chose, ils ne veulent pas que ça s'aggrave. J'ai la sensation que les footballeurs amateurs, pour beaucoup, jouent en serrant les dents, jouent blessés, que peut-être que dans le temps, on serrait un peu plus les dents, on gérait un petit peu moins son physique.
Ouais, sauf que maintenant, quand même, on s'est aperçu au début, c'était ça, c'était la réflexion, c'était t'as mal, serre les dents. Maintenant, on te dit t'as mal, attention, ne va pas aggraver la douleur, parce que on travaille quand même beaucoup plus dans la prévention. Après, ça c'est tu parles du football amateur. Bon, moi, je connais pas trop le football amateur. Mais pour ce qui est du professionnel, la moindre alerte, tout de suite, tu demandes aux joueurs, tu essaies de communiquer. Et tout ce qu'a dit Willy, c'est exactement ça, quoi. Que ce soit dans la préparation, maintenant, on arrive avec des préparateurs physiques individuels. Moi, je me souviens, lorsque j'ai passé mes diplômes avec Carlo Ancelotti au Milan AC, il y avait un préparateur physique pour deux joueurs. Deux joueurs du même poste, donc c'était vraiment ciblé, c'était vraiment donc et puis il y a cette intensité qui est énorme dans le match, mais aussi la fréquence comme disait Willy, c'est surtout ça pour moi le vrai problème. Et puis après t'as l'aspect aussi psychologique qui devient peut-être encore plus prenant actuellement avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Les joueurs font fi de ne pas s'en occuper, mais on les voit de plus en plus présents, et tout ce que tu peux prendre en bien ou en mal, et surtout en mal sur la 90% des réseaux sociaux, ça t'atteint, quelque part ça peut jouer sur le coach en a parlé, Roland, tout à l'heure, au niveau psychologique ça peut t'inhiber aussi. Il y a ce sont des nouvelles blessures qui arrivent, et c'est pour ça aussi que t'essaies de faire très attention aux joueurs, de leur entourage, des réseaux sociaux. On en parle aussi beaucoup dans les clubs.
Tu as raison. Ouais, non, je voulais juste rebondir sur ce que dit au niveau des réseaux sociaux, sur ce que dit Lionel. L'usure psychologique, la fatigue psychologique, elle est créatrice aussi de blessures. Les blessures musculaires, alors oui, c'est dû aussi aux charges de travail, c'est dû à plein de choses, mais il y a des blessures musculaires qui sont dues à une usure psychologique. Bien c'est sûr. Pas qu'une usure musculaire, et ça vient de tout ce qu'il y a voilà autour du foot, le fait que le foot c'est devenu un peu trop, voilà.
Ouais, mais quand tu vois un petit peu l'évolution, je sais pas sincèrement si justement avec ce virus, je vais pas dire grâce à ce virus, il n'y a pas des questions que l'on doit se poser, que l'on aurait dû ou qu'on devait déjà se poser avant. Pourquoi il y a plus de blessures qu'avant? Il y a eu aussi l'arrivée et l'individualisation du boulot de plus en plus précis. Mais cette musculation, que ce soit pour un footballeur, que ce soit pour un rugbyman, moi, quand je regarde les images de l'équipe de France de rugby d'il y a 25-30 ans, alors que j'avais toujours je me les imaginais avec mes yeux de gosse, comme des costauds et tout, mais c'est des gringalets à côté de ceux qui sont, bon, pas pour tous, évidemment, à côté de ceux que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, les postes là, de la mêlée, le 1, le 2 et le 3, mais avant, ils étaient bedonnants, ils arrivaient
ils couraient
à peine
pas. Ils couraient à marcher, pas, à marcher vite.
Maintenant ils sprintent et ils marquent des essais. Si tu te les prends dans la gueule, il vaut mieux prendre une moto. Donc c'est quand même devenu compliqué. Maintenant, évidemment, commotion, machin. Donc, il sort, il n'a pas le droit de ci, de là. Mais il faudrait peut-être un petit peu se pencher sur le pourquoi.
Faut faire attention quand si le virus. Parce que tu peux aussi prendre Vincent en moto.
Oui, oui.
Mais disons que quand tu rajoutes le poids par rapport à la vitesse, parce qu'ils font pratiquement le même poids, elle est peut-être un petit peu moins, mais t'as plus le excusez-moi du terme, mais quand même, quand tu voyais les piliers qui couraient pas et tout ça, ils étaient là pour ramener du poids dans le pack, oui. Et tout. Maintenant, il y a toujours pratiquement le même poids, mais il y a la masse musculaire.
Mais à cette époque-là, Lionel, qui a pris la place.
Et en plus de la masse musculaire, il y a la vitesse. Et ce que dit Roland, quand tu te prends un mec de plein fouet, même si tu te le prends de plein fouet, moi j'ai fait des matchs comme ça pour m'amuser, juste ils me touchent, ils me font mal. Alors t'imagines quand tu les prends de plein fouet, les commotions, et on le voit, Roland, aussi, tu sais, sur le football américain, tout ce qu'il y a eu avant, ils étaient vraiment à la pointe, il y a eu l'évolution, et il y a des tragédies aujourd'hui par rapport
On s'est habitué à ce que maintenant, l'évolution, ça devrait être quand même des progrès. Alors c'est sûr que les staffs, ils sont de plus en plus nombreux, en ce qui concerne les entraîneurs et les éducateurs, mais en ce qui concerne les joueurs, moi j'ai eu, évidemment, avec l'expérience que j'ai, mais c'est aussi avec l'âge que j'ai connu quand même toutes les générations. Mais quand j'étais débutant à Ajaccio, notre effectif, c'était 14 professionnels avec 3 stagiaires. Aujourd'hui, c'est terminé. Et il y avait pratiquement pas de blessés. C'était très rare de se blesser. Tu avais la traditionnelle contracture, élongation, oui, ok. Mais un ménisque, c'était un événement. Et les croisés, j'ai entendu parler qu'il y a quelques années des croisés. Et quand je vois les effectifs aussi en rugby et la liste de 12, 13, 14, 15 joueurs à l'infirmerie, et je sais plus si c'est Clermont-Ferrand, un certain moment ou quoi, mais tu prends peur et on se pose pas des questions que s'il y a peut-être des protections à faire comme dans le football américain ou quoi. Alors, là, dérapons pas sur le rugby, mais si le virus nous apporte un plus pour se pencher sur le fait qu'il y a plus de blessés en football, je dis d'ores et déjà, il y avait déjà plus de blessés avant le virus.
Et c'est pour ça que le fait d'avoir les 5 remplacements, et je suis d'accord avec vous, c'est une évolution, ça fait partie d'une évolution, ça peut aider à avoir moins de blessés. Il y a là-dessus, et il y a tout le temps eu une évolution dans le football, ça a tout le temps existé. On a commencé à jouer au football, il y avait pas de remplacement. Ensuite, la règle du hors-jeu a changé.
Après, on a installé la VAR et on a arrêté de jouer au football.
La passe au gardien de but.
Voilà, c'est celle-là qui pour moi a augmenté le rythme, a augmenté les efforts. Tu t'imagines quand tu faisais ces passes en retrait que le gardien prenait le ballon,
tu redonnais, il te repassait, Mais c'était pire.
Moi j'ai pas connu, les gars, j'ai pas connu ça. Je suis pas assez vieux, moi. Je suis désolé.
T'as pas vu où il est là dernièrement avec le tragique décès de Robert Herbin. On a vu pas mal de matchs de Coupe d'Europe de l'AS Saint-Etienne et on voyait Lopez Curco filer le ballon à Curco qui se ramassait.
Il a donné à Jean-Vion, qui lui redonnait à Curco.
Ouais, et après, il y a un dernier élément dont on n'a pas parlé, et je pense que c'est difficile de s'y pencher dessus parce que là, on rentre dans la sphère un petit peu privée des joueurs. Mais il y a un dernier élément qui est super important. Moi, je m'en suis aperçu quand j'étais directeur des équipes de France à la fédération. Je m'en suis aperçu quand j'étais entraîneur au Girondins de Bordeaux. Je m'en suis aperçu quand j'étais au Bayern de Munich. Il y a une chose, et ça, c'est un problème générationnel. Les joueurs d'aujourd'hui dorment moins. il y a moins d'heures de sommeil dans la semaine d'un joueur de foot aujourd'hui. Pour plein de raisons. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, il y a l'évolution au niveau des consoles vidéo, par exemple. Donc, oui. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent tard, voire très tard. Il y a une autre chose aussi, on va pas dire que c'est moins grave, mais bon, ça l'est encore un petit peu. C'est une génération qui les trois quarts des joueurs de foot sont entre comme on dit dans le jargon, ils bandent devant la NBA et les matchs de NBA, ils sont pas la journée avec le décalage horaire, ils sont la nuit. Donc on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui regardent la NBA la nuit et on arrive à des extrêmes un petit peu où il y a des joueurs quand ils s'entraînent le matin. S'il n'y a qu'un entraînement dans la journée, ils rentrent chez eux, ils mangent au club, ils rentrent chez eux, ils font des siestes de 3 voire 4 heures et ils se couchent après à 3 heures du matin pour se relever à 8 heures. Et ils se disent, entre les 4 heures de sommeil la nuit et les 3 heures de sieste, ça fait 7 heures, je passe à peu près. Mais non, mais c'est pas ça. Le corps, c'est une machine. Il faut le traiter comme une machine, c'est-à-dire faut lui donner des repères, il faut que ça soit régulier. Il y a ce qu'on appelle les cycles de sommeil. Et il y a des experts qui sont très bons là-dedans, qui pourraient l'expliquer beaucoup mieux que moi. Il y a des joueurs, par exemple, qui vont avoir besoin de 8 heures de sommeil pour bien récupérer. Mais pour les mêmes exercices faits, il y a d'autres joueurs qui vont avoir besoin, par exemple, de 10 heures. Donc, il y a déjà une problématique parce que tout le monde n'est pas logé un peu à la même enseigne.
Et voilà. Une différence aussi, même si tu dors 8 heures, c'est une différence entre dormir à partir de 22 heures ou dormir à partir de 3 heures du matin.
Aussi. Et il y a des joueurs, ils peuvent se permettre de dormir à partir de minuit et dormir pendant 8 heures, par exemple, ils vont récupérer à 100%. Enfin, ils vont récupérer de manière naturelle. Et il y a des joueurs, par rapport à leur cycle personnel, il faudrait qu'ils y aillent se coucher, par exemple, à 10 heures le soir, mais ils ne le font pas. Ouais. Et ça, pour moi, le changement au niveau des habitudes de sommeil, pour moi, est aussi vecteur de blessure.
Cinq changements décrétés par la FIFA et un couvre-feu décrété par Willy Sagnol.
On peut donner aussi comme précision que les changements, ils se feront aussi plus souvent à certains postes, qui notamment les latéraux, un exemple, qui sont des postes où tu cours beaucoup plus que à d'autres postes.
Effectivement. On va continuer d'en parler dans un instant, mon Lio. Il n'y a pas de problème. On te donnera la parole. Je voulais simplement vous signaler, messieurs, ça va vous intéresser.
Koh-Lanta, c'est la pub, là, je peux parler.
Ah, juste. Bah, tiens, justement, écoute ça. Demain à 14h, pas la peine de re-regarder le replay, parce qu'on sait que non seulement tu regardes, mais tu te re-regardes les épisodes. Demain, 14h, c'est le RMC Sport Show Revival avec quelque chose qui va vous intéresser, messieurs. L'incroyable parcours. Souvenez-vous de Calais en 2000, finaliste de la Coupe de France, les joueurs de la finale. Certains seront avec Nicolas Jamin et avec Nicolas Bensoussan. Demain, c'est le RMC Sport Show Revival à 14h, puis à 15h.
Ils auraient pu la gagner.
Oui, ils auraient pu la gagner à 15h. Eh bien, ils reviendront sur Renaud Lavillenie qui sera face aux auditeurs au 32-16. On revient dans un instant, on continue à parler de l'actualité football. À tout de suite dans l'After.
RMC, l'After-foot, Timothée Mémon.
De retour dans l'after, 22h27, vous êtes bien, c'est vendredi, c'est férié, c'est le week-end, profitez-en, on va se déconfiner doucement, sûrement, respectant les consignes de sécurité, vous le savez, à partir de lundi, on vous a accompagné dans ce confinement, on vous accompagnera évidemment dans la sortie de ce confinement sur RMC, vous êtes tranquillement installé, c'est l'after, et Lionel Charbonnier avait un dernier mot à dire sur les 5 changements, à moins
que
ton émission ait repris.
J'irai même plus loin, Timothée, c'est-à-dire que, et Roland en parle souvent, quand tu vois en même temps que dans les jeunes, tu perds tes jeunes qui sont en premier contrat pro, pourquoi tu mettrais pas dans tes 5 changements pour inciter tes clubs et tes jeunes à rester aussi lors d'un premier contrat pro, pourquoi tu mettrais pas un minimum de joueurs qui signent leur premier contrat pro sur le banc déjà pour que
sans changer le règlement.
Excellent.
En changeant le règlement.
Oui, avoir
puisque là, on le change, le règlement. On va à fond.
Un jeune issu du centre de formation qui fasse partie de ces 5 changements obligatoires.
Exactement. En premier contrat
pro, plus éventuellement.
Avec un minimum.
Ouais, mais tu vois, Lionel, je trouve quand même que les clubs en France, c'est le pays dans les 5-6 plus grands championnats. C'est déjà le pays qui fait le plus confiance à ces jeunes et c'est là où les jeunes démarrent le plus tôt.
C'est la Ligue des Talents.
Voilà,
c'est aussi la nation où t'as les jeunes. Par exemple, là, t'as le jeune de Marseille. Là, son nom me sort de l'esprit. Qui s'en va. Tu l'as pratiquement jamais vu en équipe première.
Oui, c'était une histoire de contrat. Sinon, on l'aurait vu.
Mais voilà. Et donc, en incitant les joueurs, ce club, ce jeune-là, si t'incites le club à avoir un minimum de jeunes sur le banc, déjà, les jeunes, parce que pourquoi ils s'en vont? Un, pour l'argent. Deux, parce que souvent on ne leur fait pas confiance très jeune, enfin à l'âge où eux ils penseraient pouvoir titiller le groupe professionnel et jouer en équipe première.
Lui c'était une histoire de contrat.
Il y a pas que lui, il y a pas que lui.
Non mais lui, tu prends cet exemple-là, mais lui c'était une histoire de contrat.
Je peux t'en prendre plein des exemples.
Oui non mais je sais, mais
je peux t'en prendre au PSG, je peux t'en prendre à Marseille, je peux t'en prendre à partout des exemples.
En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis Lionel, parce que la Bundesliga a incité ses équipes pro à
d'ores et déjà
intégrer un maximum de joueurs des centres de formation dans le protocole Covid, c'est-à-dire que par exemple, on en parlera tout à l'heure, à pas déflorer le sujet, mais il y a des joueurs qui par exemple dès demain vont être mis en quarantaine une semaine avant leur match, c'est le cas par exemple à Wolfsburg, et bien la Bundesliga a invité à emmener tous ces joueurs pro en mise au vert, et puis si possible à rajouter des jeunes joueurs en cas de contamination d'un pro pour pouvoir pallier, avoir le bon nombre de joueurs la semaine prochaine pour débuter.
Je ne le savais pas, mais je suis certain qu'il faudra y passer, et pour inciter aussi ces jeunes à pouvoir s'identifier à cette équipe première, au moins titiller, être dans le groupe, aller voir comment on se prépare dans les grands matchs, comment Cavani va se préparer, comment tout ça, et se faire connaître un petit peu. Pour moi, ça me paraît, peut-être évoluer.
Non, je comprends l'idée, mais qu'on soit bien d'accord, chaque chose en son temps. Déjà, qu'on change ce règlement.
C'est une règle évolutive, c'est ce que j'ai dit.
Qui ne permet pas.
C'est-à-dire évolution.
À un club formateur de garder un joueur au moins 3 ans dans son premier contrat pro, et que ce joueur-là soit obligé de signer le premier contrat pro dans le club
ça,
formateur.
Tu peux pas, on le sait.
Et pourquoi je peux pas?
On peut pas parce que c'est là avec Larry Bosman, on peut pas. C'est pas possible.
Mais là, ça n'a rien à voir avec Larry Bosman.
Mais si.
De garder ton jeune, pourquoi?
Mais si, parce que c'est comme ça. Si le jeune il veut partir ailleurs, il a le droit d'aller signer ailleurs.
Alors, on ne peut plus de contrat. Et les contrats à temps,
c'est ça, Roland.
C'est la loi. C'est Larry Bosman, c'est ça.
Le code du travail au niveau européen, tu peux pas fermer, tu peux pas empêcher
contourner cette loi.
Un salarié d'aller dans un autre.
Exactement.
Il n'y a pas, si tu veux, juridiquement, la possibilité. De faire
ça va être toqué par Bruxelles, ça.
Exactement.
Roland.
Exactement. C'est pour ça que je dis ça, Roland, pour contrecarrer inciter les joueurs.
Parce qu'avant Bosman, si vous vous rappelez, c'était le cas. Le premier contrat pro devait être signé.
Bien sûr.
Formateur.
Ce qui me paraissait, on ne peut plus logique.
On va conclure avec ce sujet, mais Willy, tu lèves un point important, c'est que le football est soumis au code du travail comme le reste des activités, et dans de nombreux domaines le football foule au pied le code du travail, notamment avec ses joueurs qui vont au bras de fer et autres.
Ceci dit, Timothée, ok, il y a ces lois, on est obligé, et Willy a parfaitement raison, c'est ce que je disais. Par contre, tu peux mettre d'autres règles à l'intérieur qui font que tu peux contourner les lois en mettant des règles. Tu changes pas la loi.
Effectivement.
Ma proposition.
La proposition de Lionel Charbonnier. Messieurs, avant de parler tout à l'heure des frappes de mules, ce qu'on vous disait dans la présentation de cette
marmules,
émission,
là.
Des marmules, absolument, les kartoffels, comme on dit en Allemagne. On vous parlera également dans la deuxième heure de la Bundesliga. Je voulais avoir votre avis sur cette proposition faite par l'Olympique de Marseille. Les abonnés pourront, pour ceux qui n'ont donc pas pu voir les matchs de fin de saison, les abonnés qui ont vu leur saison et leur abonnement amputé de 5 voire 6 matchs pour certains, ou ceux qui avaient acheté une place pourront soit avoir un avoir la saison prochaine, soit la possibilité également de renoncer à cet avoir et donc d'en faire don à un club.
C'est ce qu'on disait.
Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, de cette proposition faite, et du fait que les abonnés ont acheté un spectacle et qu'ils ne seront pas remboursés.
Mais voilà, ils ont la voix. Je pense qu'il y aurait dû avoir trois possibilités. Là, il y en a que deux.
Ils pouvaient aussi, s'ils veulent, ils peuvent le laisser au club.
Les propositions qui sont faites par l'OM, c'est soit ce que ça représente en termes d'argent, vous le donnez au club. C'est un don fait au club. On vous fait un avoir pour la saison prochaine. Mais à aucun moment, le club ne propose de rembourser
Il aurait dû y avoir trois situations, il n'y en a que deux.
On est avec Eddy, qui est supporter de l'Olympique de Marseille, qui a fait le 32-16. Bonsoir Eddy, comment vas-tu?
Bonsoir l'after. Salut, très bien, merci.
Bonsoir Eddy.
Confiné, très bien.
Alors, est-ce que tu es abonné, toi?
Oui, je suis abonné Virage Nord.
Abonné Virage Nord. Alors, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas demander un avoir pour la saison prochaine, faire don au club, ou est-ce que tu regrettes finalement, comme si tu étais allé au cinéma, qu'on te rembourse pas ta place sur ta carte bleue et qu'on te recrédite pas l'équivalent des 4 matchs restants?
Ben moi, en fait, je vais dire qu'en fait, par rapport à l'abonnement, au prix de l'abonnement en Virage ou autre, même si c'est dur pour beaucoup de monde, en fait, la somme, on paye 210 €, je crois, à peu près, l'abonnement. Moi, je suis prêt à laisser, en fait, l'abonnement au club. Enfin, moi, personnellement, après, je suis pas l'avis de tous les supporters marseillais, mais moi, personnellement, je suis prêt à faire ça. Voilà, en plus, on est dans une situation très compliquée, au niveau budget à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est vrai que moi, je suis prêt à faire ça.
Après, tu dis situation compliquée à l'Olympique de Marseille. Il y a aussi des gens qui se sont retrouvés au chômage partiel, qui ont perdu une partie de leurs revenus. Est-ce que c'est pas un peu surprenant qu'on leur propose pas de les rembourser purement et simplement?
C'est vrai que, comme disait Roland, la troisième idée était bien aussi. Mais après, je pense que on est tellement dans une mauvaise situation que je pense qu'ils peuvent pas faire autrement. Quoi.
Tu te réabonneras la saison prochaine?
Oui, bien sûr. Je serai abonné, et même personnellement, encore, je parle bien personnellement. Si on veut avoir un club compétitif dans les années à venir, je pense qu'après, avoir une augmentation un petit peu des abonnements ou autre, moi, je suis prêt à payer un peu plus pour mon club, pour pouvoir acheter un joueur ou autre. Voilà, si on calcule 100 euros...
En plus, avec la Champions League,
tu vois pas que...
Voilà, et en plus, on a ça.
Tu vois pas que tu choisisses d'avoir un avoir, et puis après, c'est à huis clos.
Ouais, après, par rapport à la Ligue des Champions, peut-être qu'ils peuvent faire un effort sur le pack Ligue des Champions pour ceux qui étaient abonnés cette année. Peut-être qu'ils peuvent nous faire une petite réduction sur le pack Ligue des Champions. Après, voilà. Mais après, si on va en Ligue des Champions mais qu'on n'a pas d'équipe, ils pourront nous rembourser. On s'ennuiera.
Ah oui, tu préfères qu'ils te remboursent s'il n'y a pas d'équipe
sur ton abonnement.
Entre problème.
Parce que sur ton abonnement, c'est l'abonnement Ligue 1, c'est ça. Hein, il n'y a jamais de match de coupe de Ligue des Champions.
Non, non,
il y a une priorité en plus. Mais vous êtes prioritaire.
Moi, la Ligue Europa, l'année de la Ligue Europa, on allait au stade et c'était super. J'ai fait tous les matchs de la Ligue Europa, dont même celui à Lyon, dans le club de notre ami. Voilà, que l'on connaît tous. Je veux dire, j'ai tout payé, je suis allé voir mon club de cœur, quoi. Donc derrière, moi, c'est vrai que pour la Ligue des Champions, voilà, je vais prendre le pack, je le prendrai obligatoirement.
Et le pack, vous êtes prioritaire?
Oui,
les abonnés sont en général prioritaires.
Il y a combien d'abonnés à Marseille?
33 000, je crois, à peu près. Là, cette année, on devrait être autour des 35 000. Ouais.
35 000, il restait combien de matchs à domicile?
5.
Une dizaine. 5. Ah, à domicile, non, 5. Voilà.
À domicile, 5. 5.
Mais après, dans
5,
ces 5 matchs, il restait déjà le OMPSG.
Ouais,
déjà,
mais 33 000,
Jean-Michel, cet après-midi, il a fait rapidement les comptes comme un expert comptable professionnel, et il a trouvé pas loin de 5 millions d'euros.
5 millions?
Oui.
Bah attends, si on me dit que l'abonnement pour les 19 matchs à domicile,
pour faire simple, oui,
c'est 210 euros,
il reste 5 matchs à jouer, ça représentait
5 euros. Non, attends, l'abonnement, il est à 210 euros
pour les populaires.
Pour notre ami, mais il y a des abonnements à 900 euros.
Oui,
il y a bien sûr des abonnements en gagnant, j'en vois, oui, mais après...
La moyenne de Jean-Michel, c'est 150 euros. Et tu multiplies donc 150 euros par 33 000.
Ah oui, t'as plus d'argent, mais t'as pas d'ambiance.
Ouais.
Ouais, bah ça montre malheureusement, ça montre surtout une chose, c'est que Marseille est vraiment 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 pas bien financièrement, que c'est extrêmement compliqué. Et moi alors je veux pas dire que ça m'angoisse, mais je me fais vraiment du souci pour l'avenir, parce qu'ils vont se retrouver dans une saison avec une Ligue des Champions sans pouvoir, on va dire, avoir une équipe vraiment compétitive. On connaît quand même la ferveur marseillaise, qu'à un moment donné, s'il y a des matchs de Ligue des Champions qui arrivent et que tu te retrouves, comme ça s'est déjà passé il y a quelques années, avec 0 point après les 6 matchs, ça va commencer à gronder. Ça m'inquiète sincèrement parce que la situation financière du club m'inquiète, et aussi c'est vrai que
oui, si je peux faire dire rapidement. On veut un grand club, on veut des joueurs. Après, pour moi, personnellement, je parle encore. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont pas dans les mêmes situations. Je sais que Marseille, c'est une ville populaire. Donc voilà. Après, avec c'est l'OM, c'est nous, c'est les supporters, c'est un acteur social, quoi, l'OM. Mais c'est vrai que le prix est important. Mais à un moment donné, si on n'est pas capable de mettre, pour moi, 50 € de plus sur un abonnement pour s'acheter un joueur peut-être à 1,5 million ou 2 millions. Mais au moins on aide l'OM. À un moment donné, on est toujours en train de se prendre des abonnements. Mais à un moment donné, on veut un grand club et on veut pas mettre 50 € de plus, quoi, par an, je parle. Il faut pouvoir le faire, quoi.
Ouais, il faut aussi que le football reste populaire et que les gens qui sont les moins fortunés au début de la saison, quand il faut sortir les 210 € dans ton cas, les 145 à Saint-Etienne, des fois ça fait un peu tirer la langue.
Mais tu vois, Timothée,
mais moi pour l'OM, je suis prêt à tout. Donc je suis prêt à faire 2 heures de route pour aller voir le match. Je viens du Var, moi. Je viens à côté de Saint-Tropez. Je veux dire, dans un petit village, mais voilà, donc je fais le Var, je fais 2h30 pour aller voir l'OM, au moins 15 matchs par saison. Donc, je veux dire.
Après, il faut vraiment qu'on fasse attention en France, à se dire, il nous faut d'autres sources de revenus, donc allez, on va augmenter les abonnements, on va augmenter les prix de la place au match, parce qu'à un moment donné, si tu fais ça, tu vas te retrouver comme ce qui se passe en Angleterre. Et alors, moi, j'adore le foot anglais, hein, sur le terrain, c'est extraordinaire, hein. Mais les ambiances dans les stades anglais, c'est plus que c'était avant.
Et non.
Maintenant, vous allez à l'Emirates, mais vous êtes au théâtre.
Et tu sais, Willy, depuis très longtemps, je vais à Anfield Road et que ça baisse, parce qu'il y a de plus en plus de touristes. Finalement, c'est Liverpool, c'est en semaine pour les matchs de Ligue des Champions ou même pour les matchs qui sont décalés en semaine que l'ambiance est la meilleure, parce que c'est le retour des vrais supporters, ceux qui connaissent les champs. Et t'as raison, il y a c'est le cas en Angleterre. Il faut pas tomber dans ce travers-là avec des places qui soient trop chères. Mais il y a peut-être d'autres moyens de trouver des financements, comme on su le faire. Nos amis allemands, on y reviendra là encore tout à l'heure. On revient dans un instant dans l'after. On vous a posé cette question. Messieurs, on remercie Eddy qui était avec nous, qui a fait le 32-16. Merci de nous avoir rejoints, de nous avoir donné ton avis en espérant que tu puisses retourner au Vélodrome rapidement. On vous a posé la question, messieurs. Quelle est la plus grosse frappe de mule dont vous vous souvenez? On a demandé ce classement, on a beaucoup de réponses sur Twitter. Je vous les donnerai, on débattra également entre nous du joueur qui avait la frappe la plus lourde. Et j'ai hâte d'avoir d'ailleurs l'avis de Lionel Charbonnier, victime expiatoire forcément de ces bourrins. A tout de suite, messieurs, on revient dans l'after.
RMC, l'after foot, Timothée Mémon.
De retour dans l'after, 22h43, on continue de parler de football. Dans la deuxième heure de cette émission, on sera avec nos drôles de dames pour regarder un petit peu comment ça va se passer, la reprise en Liga, est-ce qu'on y pense, en Serie A, en Première Ligue avec Julien Laurence. Vous allez voir, la situation en Première Ligue, elle n'est pas banale. Et puis on ira évidemment en Bundesliga à partir de 23h, puisque ce sont eux qui vont essuyer les plâtres, reprendre le football, prendre ce risque-là, mesurer évidemment dans des conditions très particulières. Et puisqu'il sera là à 23h, et puisqu'on va parler des frappes de mule, on va accueillir tout de suite Polo Breitner. Salut Polo.
Bonsoir Timothée, bonsoir tout le
monde. Salut Polo.
Servus Polo.
On peut le dire, Polo, c'est quand même une spécialité locale, la frappe de mule en Allemagne.
De moins en moins, je trouve, parce que l'évolution du foot est telle qu'on s'est rendu compte qu'il était plus facile de marquer des buts en étant dans la surface. Je rappelle qu'un entraîneur comme Pep Guardiola interdisait au Bayern Munich de les frappes à l'extérieur de la surface. Donc c'est de moins en moins intéressant, mais il en reste quelques-uns et on en a quand même quelques noms.
Non au tiki-taka, oui aux sacoches de 30 mètres. On est bien d'accord, mon Polo. Alors, messieurs, je vous pose la question. On va commencer avec toi, coach. Quel est ton souvenir de frappeur que tu as pu avoir sous tes ordres, par exemple, ou alors un souvenir autre, des frappes lourdes, des frappes puissantes. Et là, on n'est pas en train de parler de précision. On parle de joueurs qui frappaient fort, très fort.
Amusant. Donc, sur le plan français uniquement ou
comme tu veux, la question est ouverte.
Bah, sur ces dernières années, c'est la frappe qui est un petit peu une frappe avec une technique nouvelle de Juninho. J'avais l'impression que le tir y partait et pendant la trajectoire, tous les mètres, le ballon il allait de plus en plus vite. Donc c'est une frappe qui a été pour moi une frappe particulière et particulièrement efficace. Et ensuite, bon, un joueur que vous n'avez pas dû connaître puisque vous êtes beaucoup plus jeune que moi, c'est Bernard Bosquier, donc un arrière-central libéro des années donc 70. C'était entre la grosseur de ses cuisses et la puissance de la frappe et le bruit de sa frappe, sincèrement, ça faisait peur, ça faisait mal.
Willy, t'as le souvenir d'un coéquipier ou t'as un joueur comme ça qui t'a marqué pour la puissance de ses frappes?
Ouais, il y en avait deux, ouais. Il y en avait deux et j'aimais pas justement à l'entraînement quand je me retrouvais en phase 2, soit sur un coup franc dans une opposition ou un truc comme ça. C'était dingue. Alors, il y en avait un, c'était Karsten Janker. Alors, il avait une frappe, mais c'était même plus une frappe de mule, c'était encore au-dessus, mais l'avantage, c'est que ça partait pas toujours bien, donc ça nous touchait pas toujours. Et par contre, celui, pour moi, qui avait la plus belle frappe, parce qu'elle était forte, lourde, puissante, précise, c'était Michael Tarnat.
Tarnat. Alors, absolument, le nom est ressorti sur Twitter. C'était un des noms qui était cité. Effectivement, frappe surpuissante. Tarnat, qui a d'ailleurs passé quelques temps en Allemagne. Polo,
Tarnat, je l'avais dans ma liste, évidemment. Ouais. En fait, moi, j'ai aussi cherché les joueurs qui ont joué contre Willy. Peut-être se souvient-il d'un joueur qui s'appelait Beinlich aussi.
Stéphane Beinlich.
Avait une frappe de mule, qui était l'un de mes joueurs préférés à l'époque. Il y avait évidemment Thorsten Frings, qui n'était pas le plus mauvais non plus au niveau de ses frappes. Il y avait alors un joueur qui jouait à Wolfsburg aussi, qui était un défenseur central. C'était un peu le même profil qu'a dit Roland
Bosquet.
Ouais. Et ben c'était Madlung, qui avait une frappe d'une lourdeur absolue. On parle vraiment des frappes lourdes, là, pas quoi, les
Ouais, mais Madlung, il avait un problème, c'est qu'il n'arrivait pas toujours à toucher la balle quand il tirait.
On est d'accord, mais quand ça partait bien, le mur se faisait légèrement désosser quelquefois et c'était un peu compliqué. Et puis, alors, si on revient un peu dans les plus anciens, Augenthaler quand même, c'était pas si mauvais que ça. J'ai le souvenir aussi, mais je suis pas persuadé que c'était un grand spécialiste des frappes lointaines. Rappelons-nous la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1974, à 20 secondes de la fin, un certain Schwarzenbeck te met un boulet qui permet l'égalisation et donc il y a match d'appui remporté par le Bayern, ensuite 4-0. Et plus récemment encore, je pense à un Brésilien qui jouait au Hertha Berlin, qui s'appelait Rony, qui était d'ailleurs le demi-frère de Raphaël, d'ailleurs l'autre Brésilien qui est à Mönchengladbach. Ça fait partie de ces joueurs, si tu veux, tu comprends pas trop, c'est qu'en fait, faut pas être devant, parce que ça part, c'est tout droit, et t'as l'impression que la balle s'accélère. C'est vraiment ça que j'appelle les balles lourdes. Et en fait, le gardien, il peut prévoir tout ce que tu veux, il se fait trouer aussi, quoi. C'est assez impressionnant. Malheureusement.
Un peu comme la frappe de Juninho.
C'est ça, ouais, enfin Juninho, ça flotte beaucoup, je trouve. Une frappe lourde.
On parle du missile, là, hein. c'est ça, ouais. Et alors, Willy, Polo, je voulais avoir votre avis, parce que c'est revenu pas mal sur Twitter aussi, Rainer Bonhoff.
Alors, Rainer Bonhoff, ouais, mais c'est... Je l'ai pas noté, parce que ça commence à être dans les années 70, les Mönchengladbach. Mais c'est vrai que Rainer Bonhoff faisait partie aussi de ces joueurs qui avaient une frappe de nulle. C'était assez impressionnant. Et alors, je m'excuse, j'avais préparé une liste et ma liste s'est effacée. Alors, j'essaie de me faire tous les souvenirs.
Ouais, mais en Polo, général, il faut le dire que c'était vraiment typique de la culture allemande.
C'est vrai, on est d'accord.
Moi, quand je suis arrivé au Bayern, il y a des choses qui, quand je m'entraînais en France, on arrivait, on s'échauffait, on faisait un exercice technique, on courait un peu avant de commencer l'entraînement. Non, en Allemagne, les mecs, ils arrivaient sur le terrain à l'échauffement, à l'entraînement, la première chose qu'il faisait, il se mettait à 22, 23 mètres et il frappait comme des mules à froid. Et c'était, c'est vraiment dans leur culture. Eux, la frappe de, la frappe de loin, alors soit ils disaient, bah, au moins ça fera monter la défense et à un moment donné on trouvera les solutions, soit, bah, pour ceux qui aient des grosses frappes, c'était des occasions de but. C'est vraiment culturel chez eux. C'était culturel.
Et puis, ouais, on est d'accord. Et en plus, j'en ai retrouvé un autre qui était un arrière latéral qui malheureusement a été blessé, qui avait été formé à Schalke, qui a fait une belle carrière à Hanovre par la suite. C'est Pander. Je sais pas si Willy s'en souvient.
Oui, il avait un grand, les cheveux rasés.
Et en fait, l'Angleterre s'en souvient, parce que pour sa première sélection, il avait mis une patate, et c'était le gardien, je ne me rappelle plus c'était qui, avait été chercher la balle au fond. C'était assez impressionnant, mais malheureusement, on le voit de moins en moins en ce moment, et encore une fois, il y a Guardiola est passé par là, l'évolution du football est passée par là, et puis on a aussi l'évolution des ballons, techniquement parlant et technologiquement, ouais. Je veux dire.
Tu peux plus mettre de frappe de mammouth aujourd'hui. Les ballons sont trop légers.
Exactement.
C'est un peu plus difficile. Alors, messieurs, un petit mot là des propositions qui m'ont été faites. J'en ai défloré une de Bruno qui va nous rejoindre dans un tout petit instant, qui est supporter de Reims et du Red Star. Une proposition
Lionel, qu'est-ce qu'il dit en tant que,
justement,
en tant que gardien.
On viendra ensuite à Lionel parce que je suis curieux. Je vous ai pas entendu parler de Ronald Koeman. Moi, c'est oui, en oui, parlant de frappe de mule, c'est quand même un des premiers qui m'est venu à l'esprit. Notamment sa frappe avec Barcelone, là on se souvient ce missile venu de la droite qui
et,
part
et le, et le,
qui
part et le milieu hollandais là, c'est Han qui avait ce
Han ouais
Han
qui avait Han dans les années 70 ouais. Ariane.
Oui.
Ça, oui, ça frappe dur, oui. Là c'est ça, des vrais, c'est des vrais, ça c'est
bon. Je me rappelle de ce but à Azov, non?
Alors absolument. Tarnat, on l'a dit. Roberto Carlos, je m'attendais à ce que vous m'en parliez, messieurs.
Non.
Ah ben non, c'est ce que c'est ce que je voulais te dire quand je te dis si on cherchait français ou étranger.
Parce que en fait Roberto Carlos, moi j'ai quand même joué un paquet de fois contre lui. On se souvient.
Ben, on se souvient de cet externe
au tournoi contre Barthez en 95, voilà. 16, je sais plus, 15, un truc comme ça, ou 97, 17. Je sais plus. 17.
Ouais,
voilà,
ouais,
17. On se souvient quelques-uns avec le Real, mais moi je me souviens, je l'ai quand même vu tirer un paquet de coups francs. Ou le ballon, mais il partait, mais n'importe comment, c'est-à-dire presque il finissait à ras de terre au poteau de corner.
Alors, messieurs,
parce que la frappe de mammouth, il faut qu'elle soit bien faite.
Oui,
aussi,
oui, on est d'accord. Il faut qu'elle traverse bien le ballon. Justement, cette frappe de Roberto Carlos, celle le coup franc dont vous parlez contre la France qui bat Fabien Barthez en 97, c'est la 13e frappe la plus rapide de l'histoire. Je vous ai fait un petit classement. Je vous parlais tout à l'heure de cette frappe surpuissante de Ronald Koeman. Vous la voyez tous, vous la visualisez. Si vous êtes chez vous, faites un tour sur YouTube. Vous tapez Koeman frappe missile. Vous allez trouver immédiatement cette frappe avec le Barça, kilométrée à 188 km/h. Ça n'est que la cinquième frappe, messieurs. Je vais vous donner le classement tout à l'heure.
On lui récupère sa voiture, lui, à cette vitesse-là.
On finira ce classement tout à l'heure. On accueille Bruno qui a fait le 32-16. Salut Bruno.
Oui, bonsoir messieurs.
Comment vas-tu,
Bruno?
Bonsoir Bruno.
Effectivement, moi j'ai un joueur français. Que je pense que Lionel Charbonnier va s'en rappeler, c'est Franck Chezé. Il avait vraiment une frappe de mule.
Le canonnier de la Bigude.
Notamment du but le titre à l'Olympique de Marseille lors de la saison 88-89 où il va jouer El Bats à quelques secondes de la fin. Et j'ai regardé là tout dernièrement, c'était un Marseille-Metz. Où il met une frappe de 35 mètres qui va Jacques Songo dans les buts de Metz. Voilà.
Je m'en souviens, j'ai joué contre lui. Il jouait, quand moi je jouais aux Rangers, lui il jouait à Hibernians ou quelque chose comme ça, je crois. Il a eu, je sais pas, 4-5 coups francs. Et c'était tout le temps lui, mais 35-40 mètres. Je dis, il va pas me marquer un but de là quand même.
Lionel, toi, en tant que gardien.
Résultat, Lionel, résultat?
Non, il n'a pas marqué. Ah, mais bon, c'est vrai que quand ça t'arrive dans les mains, des fois, tu cherches pas à la bloquer, quoi. Parce que si peu que ça flotte un petit peu, tu prends pas les risques.
Merci beaucoup à Bruno d'être venu nous parler de Franck Sauzet. Lionel, justement. Ouais.
Moi, je vais rester dans ce que vous avez dit. Et Polo peut-être connaît ce joueur. Je pense qu'il le connaît. Jorg Alberts.
C'est une frappe.
Je n'ai jamais vu ça. C'est un milieu de terrain, Jörg Alberts. Et je peux te dire qu'au Rangers, c'est lui qui tirait tous les coups francs. Il tirait, comme tu disais, Willy, il arrivait à 30 mètres, il frappait, il cherchait pas à savoir. Il frappait comme une mule et tout. J'ai rarement vu une frappe aussi forte. À l'entraînement, c'était quelque chose. Là, ça faisait plus... encore plus mal que Franck Sauzet en match.
Il a joué à Hambourg. Il a joué à Hambourg aussi, lui, non?
Je crois. Il a débuté à Hambourg, je crois.
Ouais.
Je crois. Hein.
Lionel, en tant que gardien, cette technique de frappe de Juninho.
Ah, ça, c'est, j'ai bien fait d'arrêter, quoi. Quand j'ai vu ce qui se passait, moi, je l'ai vu qu'à la télé, mais j'aurais pas voulu le vivre en match, parce que au-delà de la, plus que la force, c'était la trajectoire, c'est cette nouvelle technique qu'il prenait comme ça, là, en prenant, je sais pas, moitié inter, moitié coup de pied.
J'avais l'impression que tous les mètres,
ça changeait.
Ça allait de plus en plus vite.
Exactement. Et en plus, le ballon tournait sur lui-même, te faisait, des fois, t'avais l'impression qu'il sortait, la balle sortait, elle passait au-dessus et tout d'un coup elle replongeait comme ça. Ouais. Donc fallait vraiment assurer. Il y a beaucoup de gardiens d'ailleurs qui n'assuraient pas, hein, qui ont pris cette frappe de Juninho. Mais Jörg Alberts, je peux vous dire les mecs, c'est quelque chose. Moi je me souviens à l'entraînement, des fois bon, on laissait même passer les frappes lorsqu'il était un peu trop près, on laissait le but rentrer. Chose qu'un gamin de 16-17 ans ne fait pas quand il est gardien de but. Et ce con de Dick Advocaat là, qui était entraîneur justement des Rangers, comme nous on voulait, on quand c'était les frappes étaient trop proches, il faisait des frappes à 16 mètres. Bon là Alberts à 16 mètres, je peux te dire, tu prenais un missile, on jouait même pas le coup. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au petit jeune, il s'appelait Alan McGregor, il dit bah toi va dans les buts. Il avait 16-17 ans. Super gardien, un gardien international, très très bon le gardien. Sauf que quand t'as 16-17 ans, que t'es en équipe première, bah qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas comme les pros, quoi. Tu mets les mains. Et il lui a cassé le fracture du scaphoïde. Il a mis la main, fracture du scaphoïde. Il s'est retourné la main complètement. Il n'était pas apte. Et le gamin, il est resté un an et demi sans jouer, quoi. Et faut vraiment faire attention. Et là, c'est une erreur de management, mais une frappe. J'ai jamais vu ça, et que ce soit Stéphane Clauss ou moi-même, on mettait pas les mains, c'était rare, ou fallait vraiment qu'elle nous arrive dessus, ou on mettait le coude, on mettait l'avant-bras, mais on cherchait pas à bloquer ou quoi, parce que c'est
trop puissant.
Lionel, c'était phénoménal.
Lionel, ouais. Tu étais avec Stéphane Clauss, toi. Oui. Stéphane Clauss. Enfin, pour les gens qui nous écoutent, c'était le gardien du Borussia Dortmund. Ah d'accord. C'était le gardien qui était du Borussia Dortmund qui gagnait la Ligue de Champions en 97. Donc c'est vrai qu'il était parti en Écosse.
Quand je me suis blessé, messieurs, les autres frappes de mule, on nous a proposé Riz. Vous vous souvenez, qui était passé, ouais, Dion Arne Riz.
Bonne grosse frappe.
Bonne grosse frappe. Laurent Robert, ça vous... Oui, plus ou moins. Oui.
Aussi, oui.
D'Archeville, Thorsten Frings.
Ah, Frings, oui, évidemment.
Je me demandais, Lionel, Ngoti, tu l'as côtoyé,
bien sûr. C'est un petit... Bah, il avait une belle frappe, hein, mais écoute, après t'as les frappes lourdes mais franches.
Ouais.
Ça va. Mais comme dit le coach, si t'as une frappe lourde et en plus qui commence à voler et qui va un peu dans tous les sens,
ouais, c'est là où ça là, peut arriver ça fait au très, mauvais très endroit mal. De la main.
Mais,
ouais.
Mais par contre, comme dit Willy aussi, t'as la frappe lourde qui va dans tous les sens mais qui va au point de corner. C'est là si ça vient dans le but une fois sur 10, tu t'en fous un petit peu. Mais tout le temps précis comme ça, parce que ce qu'il faut mettre, c'est la lourdeur, la précision, la force, et voilà, il faut pas non plus oublier la précision.
Timothée, j'ai oublié,
ouais, très vite.
Mario Basler,
effectivement, à retrouver sur internet. On nous a proposé aussi Hulk ou Bruno Bastos. Alors messieurs, je vous l'ai promis, le classement des trois joueurs qui frappaient les plus forts avec les chronomètres de dingue. La troisième place, elle est étonnante. C'est Arjen Robben, c'était dans un match entre le Real, à l'époque où il portait le maillot du Real, face à Dortmund. Il a frappé une frappe qui était repérée à 190 km/h. La deuxième frappe la plus forte, c'est le Brésilien Ronnie Eberson qui avait marqué un but sur une frappe à 211. Et je vous donne le kilométrage.
De 17 le plus fort, ou quelque chose comme ça, non?
266 km/h.
La machine était cassée.
En voyant ça, je me suis demandé si la machine n'était pas cassée. En tout cas, c'est un joueur turc, Ami Mandirali. C'est la frappe la plus puissante qui ait jamais été enregistrée sur un terrain de football. Voilà pour ces frappes de mule, messieurs. On revient dans un instant.
Tu as vu les images?
Les images sont difficiles à trouver, effectivement, pour Ami Mandirali.
On voit pas le ballon.
mais effectivement, ça vaut le coup de chercher. On revient dans un instant. On va vous parler de la reprise du football frais, du football qui sent la pelouse fraîchement coupée. Ce sera en Bundesliga la semaine prochaine. On parlera de la Liga, de la Serie A, de la Première Liga. Tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.